France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Camille Magnard. Rebonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. 6 ans après leur création, les zones à faible émission dans les grandes villes de France ont été supprimées hier par un vote à l'Assemblée. Avec Stéphane Robert, nous nous pencherons sur ce discours à droite comme à gauche qui fait de plus en plus souvent barrage aux mesures environnementales ou de santé publique. Nous nous demanderons aussi dans quelle mesure le référendum sur la Constitution européenne il y a 20 ans n'a pas marqué l'acte de naissance d'un nouveau clivage politique. Et puis Marine Le Pen en déplacement en Nouvelle-Calédonie un an après les violentes insurrection qu'a connue l'archipel, la patronne du RN tente de s'inviter dans les pourparlers sur l'avenir justement de la Nouvelle-Calédonie. L'invité de ce journal, c'est Gabriel Trouvé du collectif de victimes de Joël Le Squarnec au lendemain du verdict qui a condamné l'ancien chirurgien à 20 ans de réclusion pour près de 300 actes de viol et agression sexuelle pour la plupart sur des mineurs. À la page internationale de ce journal, question autour d'une nouvelle offensive militaire russe au nord-est de l'Ukraine où Moscou masse ses troupes. Et puis à Tel Aviv, le ministre d'extrême droite, Bezalel Smotrich, qui soigne sa base électorale la plus radicale, il annonce la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée.
C'est un vote irresponsable pour les uns, une question de justice sociale pour les autres.
Une majorité de députés hier à l'Assemblée a supprimé les zones à faible émission, les ZFE qui depuis 6 ans ambitionnaient de réduire la circulation des véhicules thermiques les plus polluants dans les centres des principales agglomérations françaises. Enjeu de santé publique pour le gouvernement et les écologistes quand la pollution de l'air entraîne chaque année 40 000 décès prématurés, mais mesure qui discriminait gravement les plus pauvres des Français. Selon la France Insoumise, les Républicains et le Rassemblement National. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Camille.
Depuis son lancement il y a 6 ans, donc cette mesure des ZFE avait cristallisé contre elle un discours de rejet à droite comme à gauche. On l'a vu que l'on retrouve désormais dans quasiment tous les débats sur les questions environnementales ou de santé publique.
Oui, les ZFE pour zones à faible émission sont une mesure emblématique de la loi Climat et Résilience votée en 2021 suite aux travaux de la Convention citoyenne sur le climat. Elles ont commencé progressivement à entrer en vigueur dans les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants que compte le pays. Mais elles étaient vivement contestées, notamment par les plus pauvres ou par les artisans qui y voyaient une mesure les excluant des centres-villes. Si bien que certaines agglomérations avaient retardé leur mise en œuvre, comme par exemple Montpellier ou encore Strasbourg, pourtant dirigées par les écologistes, où l'activation de la ZFE avait été retardée de 2 ans, de 2025 à 2027. Apparaît donc face aux ambitions en matière de transition énergétique un principe de réalité. Le politologue Simon Persicot, enseignant à Sciences Po Grenoble, constate que les politiques en faveur de l'environnement s'avèrent à l'usage très difficiles à mettre en œuvre.
C'est très difficile parce que, d'une part, vous avez toute une série d'acteurs économiques qui ont intérêt à présenter les problèmes sur le front de l'emploi, de ne pas surréglementer pour ne pas empêcher le développement économique, etc. Et vous avez des électeurs et des électrices qui, du coup, sont sensibles à ces arguments, ne comprennent pas forcément aussi des politiques qui sont un peu restrictives. Donc c'est sans doute au cœur de ce qui doit être mené quand on veut protéger l'environnement, mais c'est difficile de cadrer cela politiquement et que ce soit accepté par une très large majorité de la population qui s'y oppose.
Cette question de l'acceptation des politiques environnementales se heurte aujourd'hui à un contexte international de plus en plus concurrentiel et de plus en plus menaçant. Elle nourrit en France la contestation des agriculteurs qui dénoncent des contraintes trop lourdes pour l'exercice de leur profession. Souvenons-nous aussi que c'est ce qui avait déclenché la colère des Gilets jaunes en 2018. Une taxe carbone était à l'origine du mouvement et elle génère des reculs jusqu'à la Commission européenne qui envisage avec sa directive Omnibus d'assouplir les règles du pacte vert européen pour ne pas pénaliser les entreprises, notamment face à la concurrence chinoise.
Merci Stéphane Robert. Et quand on parle de ces lignes de tension qui n'en finissent pas de redéfinir le débat politique en France, comment ne pas évoquer il y a 20 ans, jour pour jour, ce référendum sur la Constitution européenne en 2005. Il avait donné la victoire au non quand le président de l'époque, Jacques Chirac, s'attendait à une large victoire. Près de 55% des Français s'étaient opposés, on s'en souvient, à la ratification du traité. Une bonne partie de la classe politique pourtant avait jeter tous ses efforts dans la bataille du oui, faisant voler en éclats le clivage droite-gauche. Tiens, c'est l'analyse du politologue Pascal Perrineau, joint par Louise Cinquin.
Ça a mis en place un clivage qui a fait complètement exploser le clivage entre la gauche et la droite, parce que se sont retrouvés dans la majorité du non des électeurs à la fois de droite et de gauche mêlés, et dans le oui qui s'est avéré être minoritaire, il y avait plutôt des électeurs de la gauche modérée, du centre et de la droite modérée. Et on a vu apparaître un nouveau clivage autour de deux conceptions de l'avenir de la société française. Les électeurs du oui faisaient confiance à une France ouverte au monde, ouverte à l'avenir d'une Europe qui ne serait pas simplement économique, mais aussi politique. Et puis, une majorité d'électeurs, ceux du non, qui exprimaient leur inquiétude vis-à-vis de l'ouverture du monde, de la construction d'une Europe politique. Et ce clivage, au fond, a été un clivage fondateur de clivages qui réémergeront plus d'une dizaine d'années plus tard, en particulier en 2017 et en 2022. Où l'affrontement, au fond, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'enracine largement dans ce clivage. Emmanuel Macron se présentant comme l'homme qui exprime les intérêts de cette France dite ouverte, Marine Le Pen étant la femme qui exprime les inquiétudes des Français qui veulent retourner à une société protégée derrière des frontières nationales, politiques ou économiques.
Emmanuel Macron en Indonésie aujourd'hui, à Singapour demain. Il poursuit sa tournée en Asie du Sud-Est, région Indo-Pacifique, où il est beaucoup question pour la France d'arriver à exister face à l'influence grandissante de la Chine.
Et s'il y a un territoire où ce sujet est crucial, c'est bien la Nouvelle-Calédonie. Un an après les émeutes insurrectionnelles et l'échec des négociations plus récents entre forces politiques de l'archipel, Marine Le Pen est sur place pour 4 jours, toujours inéligible. La patronne du Rassemblement National y rencontre justement les acteurs économiques et politiques néo-calédoniens. Et elle met au passage la pression sur Emmanuel Macron pour s'inviter dans les consultations prévues à Paris à la mi-juin. On suit ça depuis Nouméa avec Pierrick Bonneau et Marc Garvenès.
À Nouméa, Marine Le Pen est d'abord venue réaffirmer sa stature présidentielle. Emmanuel Macron organise bientôt de nouvelles discussions sur la Nouvelle-Calédonie. Sa principale opposante veut sa place autour de la table.
Je suis candidate à la présidentielle. Et par conséquent, demain, je peux être amené, si je suis élu, si les Français me font confiance, à avoir une part active dans les décisions qui pourraient être prises. Donc je crois que ce serait une bonne chose que je puisse participer effectivement à ces consultations.
Il y a 24 heures pourtant, Marine Le Pen qualifiait de mauvaise méthode ces consultations, mais elle n'est pas à une contradiction près quand il s'agit d'afficher un visage rassembleur.
Qu'est-ce que j'espère apporter ? Je sais pas, de la modération. Enfin, on voit bien qu'on est quand même un peu aux prises entre deux radicalités. Hein. D'une partie des indépendantistes, mais aussi une radicalité du parti des loyalistes. Je n'hésite pas à le dire. Hein.
Jordan Bardella n'aurait-il pas plus sa place dans ces discussions ?
Je suis pas sûr que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, on se partage nos talents, dirons-nous.
Au Rassemblement National, on se partage les talents, mais pas la place de numéro un.
Une grève qui promet d'être très suivie aujourd'hui en France, c'est celle des pilotes d'hélicoptères du SAMU. Ils sont environ 200 en France, chargés du transport des blessés et des malades dans les cas les plus urgents, les plus complexes aussi. Ils démarrent donc une grève illimitée pour obtenir une revalorisation de leurs salaires les plus bas d'Europe, selon eux.
La colère et la déception ne retombent pas 24 heures après le verdict au procès de Joël Le Squarnec.
Mais cet ex-chirurgien jugé pour avoir violé ou agressé sexuellement près de 300 victimes sur une période de 20 ans, celui qui avait été qualifié de diable par l'avocat général, a été reconnu coupable, condamné à la sanction maximale prévue par la loi, 20 ans de prison, dont 2/3 de peine de sûreté. On accueille notre invité Gabriel Trouvé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du collectif de victimes de Joël Le Squarnec. Vous avez vous-même été victime. Vous aviez l'âge de 5 ans. Comment réagissez-vous tout simplement avec un peu de recul maintenant que nous donnent ces quelques heures depuis l'annonce de ce verdict à la fin donc de ce procès qui aura duré près de 4 mois et que vous avez attendu, j'imagine, pendant des années?
Alors, je dirais avec beaucoup d'émotion. Même encore aujourd'hui et surtout aujourd'hui, parce que il faut savoir que on s'attendait à une mesure de rétention de sûreté qui aurait pu éviter justement une récidive sur le long terme. Il faut savoir que ça a été très compliqué pour nous. Moi, j'ai dû suivre en salle de déport le verdict. parce qu'on n'avait pas la place suffisante pour tous être au tribunal. Beaucoup d'émotions, beaucoup de personnes se sont effondrées, d'autres sont restées sidérées. Et il y a eu aussi des personnes neutres, voilà, avec un comportement neutre. C'est assez compliqué de décrypter hein, quand on est dans ces circonstances.
Alors pourquoi justement cette frustration, cette déception que l'on a beaucoup entendue depuis hier sur justement cette rétention de sûreté? Ça aurait permis, disons, d'évaluer la dangerosité de Joël Le Scouarnec à sa sortie de prison, de le placer peut-être dans un centre médico-légal en cas de danger. Vous pensez qu'il peut être encore aujourd'hui dangereux et qu'il y a un risque de récidive? Il a 74 ans et devrait sortir au mieux pour lui, en tout cas dans 7 ans.
Effectivement, pour replacer dans le contexte, la loi était appliquée au sens strict de la loi. Donc, pour le coup, on n'a rien à redire là-dessus. Seulement, les expertises qui ont été nombreuses et pluridisciplinaires en termes d'approche psychologique ont toutes montré qu'il y avait un risque de récidive, une certaine dangerosité. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous, on a une grande inquiétude sur le fait que cette mesure n'ait pas été prise, cette mesure de rétention, puisqu'il aurait été plus simple dans la recherche de l'authenticité de ce qu'il a pu dire aussi et de l'évolution qu'il a tenté de justifier et qui visiblement a pris, de le faire voir par des spécialistes. Mmh. C'est-à-dire que là, on prend quand même le risque d'un retour dans la vie ordinaire d'ici 6 ans. Et ça, c'est inentendable. Et ça nous heurte encore de plein fouet. Et c'est un appel vraiment fort qui a été fait pour que le législateur prenne la pleine mesure de ce qui s'est passé et de la faiblesse de l'instrument juridique, puisqu'il n'est pas adapté de toute évidence pour bien juger ce genre d'affaires.
Mmh. Alors, Gabriel Trouvé, la défense de Joël Le Scouarnec tout au long du procès a tout fait pour le présenter comme un vieil homme qui voulait reconnaître la gravité des faits sur la voie de la rédemption. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous qui lui avez fait face pendant tout ce procès?
Alors, 30 ans, plus de 30 ans d'agir criminel, ça s'efface pas comme ça. Surtout avec une structure perverse comme la sienne, avec autant de paraphilie. Qu'il ait pu jouir du terrain de la cour criminelle comme un nouveau terrain de perversion, c'est une chose. Moi je ne peux pas croire, au regard des expertises qui nous ont montré que c'est un homme qui sait s'adapter et qui va dire des choses différentes en fonction de ses interlocuteurs, qui a des stratégies manipulatoires quand même qui sont assez avancées et intégrées. L'authenticité, finalement, ici, n'a que peu de sens. Il aurait fallu un psychocriminologue, je pense, voire un conseil un peu plus fourni sur le long du procès afin de clarifier et d'aider, je pense, la Cour dans leur recherche de la vérité.
Alors, justement, la présidente de la Cour criminelle a parlé de Joël Le Scouarnec comme d'un impensé du monde médical. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de la posture, de l'attitude des institutions hospitalières politiques tout au long de ce procès pour reconnaître ce parcours criminel avait pu durer si longtemps et comment on fait pour éviter aujourd'hui qu'il ne se reproduise avec d'autres?
Alors, je dirais que on voit bien qu'il y a un problème dans la professionnalité et peut-être dans la formation, que finalement le code de déontologie, on l'applique un petit peu comme on le souhaite. En tout cas, les témoins qu'on a pu voir ne semblaient pas vouloir prendre une quelconque responsabilité dans ce qui s'est passé et était plutôt sur une stratégie de « je lance la patate chaude à mon voisin et quelqu'un d'autre s'en occupera ». Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que ce manque de prise de responsabilité et cette diffusion derrière un statut, une institution, en fait le nom d'une institution, est éminemment problématique. Ça met le point aussi sur le manque de système de moyens de prévention et de moyens de formation sur ce genre de crime. Donc peut-être que un groupe de travail et coopter un protocole qui puisse être appliqué et visuellement accessible à tous pourrait déjà être une première étape, à défaut de présenter des excuses authentiques et sincères qu'on attend par ailleurs toujours.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Gabriel Trouvé, donc membre du collectif de victimes de Joël Le Squarnec. Merci à vous d'avoir été l'invité de ce journal.
Le premier round n'avait permis que de constater l'impossibilité du dialogue vers la paix. Une deuxième séance de négociations entre délégations ukrainiennes, russes et américaines pourrait se tenir lundi prochain à Istanbul.
Oui, Moscou en a fait la proposition hier, acceptée par Kiev ce matin, si et seulement si les Russes précisent à l'avance leurs conditions préalables à un arrêt des combats. Mais sur le terrain militaire, à la frontière entre Ukraine et Russie, l'armée russe n'en prend pas du tout le chemin. Au contraire, Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'avoir massé 50 000 soldats aux portes de la région de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine en vue d'une nouvelle offensive. Et vu l'intensité des combats dans ce secteur ces derniers jours, Sylvain Tronchet, c'est à se demander si l'offensive russe n'a pas déjà commencé.
L'armée russe, pas plus que l'armée ukrainienne d'ailleurs, ne dévoile jamais ses plans et reste discrète sur ses positions. Mais ces derniers jours, elle a revendiqué la prise de 4 villages dans la région de Soumy. Elle affirme aussi que l'armée ukrainienne a perdu le contrôle de la principale route qui relie cette capitale régionale de 250 000 habitants à la frontière. Certains blogueurs militaires russes estiment que la bataille de Soumy a bel et bien commencé. Les forces russes progressent actuellement vers le village stratégique de Khotyn. De là, ils pourraient contrôler avec leurs drones les principaux axes d'approvisionnement à l'ouest de Soumy. Si la Russie n'a pas clairement annoncé son intention de prendre cette région, Vladimir Poutine a parlé la semaine dernière de sa volonté de créer une zone tampon en territoire ukrainien pour officiellement protéger le territoire russe. Selon des analystes ukrainiens, les forces de Moscou ont conquis au cours de la semaine dernière plus de 100 km² pour la première fois depuis décembre. Autant de données qui renforcent l'hypothèse d'une offensive russe en cours.
Sylvain Tronchet à Moscou pour France Culture. Dans la bande de Gaza, la faim entretenue depuis des semaines par le blocus israélien a poussé des milliers de Palestiniens à prendre d'assaut et à piller hier soir un entrepôt du programme alimentaire de l'ONU, le PAM, qui appelle une nouvelle fois à permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave pour éviter les scènes de chaos de ces derniers jours autour des rares camions d'aide autorisés par Israël. Et pendant ce temps, au sein du gouvernement Netanyahou, le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich met encore de l'huile sur le feu. Il annonce la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
À Jérusalem pour France Culture. Le ministre Smotrich est lui-même un colon chargé de la gestion des colonies dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il parle aujourd'hui d'un pas de géant sur la voie de l'implantation israélienne dans les territoires palestiniens.
Oui, il ajoute que c'est une journée historique pour Israël, tandis que le ministre de la Défense, Israël Katz, affirme que cette décision va changer la face de la Judée-Samarie. Vous savez, Judée-Samarie, c'est le terme qui est utilisé en hébreu pour la Cisjordanie. Feu vert donc pour la création de 22 points de colonisation sur l'ensemble de cette région. Ils sont répartis sur tout le territoire occupé par Israël, au nord, au sud et dans le centre, rendant encore plus difficile la création d'un futur État palestinien. Deux de ces nouvelles colonies, Chomesh et Sanour, avaient été démantelées dans le cadre de la loi de 2005 sur le désengagement de Gaza et de 4 avant-postes du nord de la Cisjordanie, une loi qui a été formellement abrogée par l'actuel gouvernement. La décision a été prise par le cabinet de sécurité israélien alors qu'un nouveau plan de trêve à Gaza et de libération d'otages vient d'être présenté par les États-Unis, et aussi que la France doit présenter avec l'Arabie saoudite en juin une conférence des Nations unies destinée à favoriser la solution de paix à deux États. Israël répondra à des décisions unilatérales par des mesures unilatérales, avait prévenu la semaine dernière Gideon Saar, le ministre israélien des Affaires étrangères.
Michel Paul, merci. Des images qui ont fait le tour du monde ces dernières 24 heures, ce sont celles de ce village suisse de Blatten, rayé de la carte à 90% par l'effondrement d'un glacier et l'éboulement de millions de tonnes de glace et de roches. Phénomène extrêmement rare et spectaculaire sous nos latitudes. Bonjour Jérémy Lanche.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Genève. Les quelques 300 habitants du village de Blatten avaient été évacués de manière préventive, mais un autre danger guette cette vallée suisse du Löschental.
Oui, parce que les millions de mètres cubes qui se sont abattus sur Blatten ont en plus créé une sorte de barrage sur la rivière Lonza. Les maisons qui n'ont pas été ensevelies par l'éboulement sont donc maintenant sous les eaux et le niveau du lac grimpe d'heure en heure. Le risque, c'est que toute cette eau qui s'accumule lâche d'un coup et provoque une lave torrentielle qui s'abattrait sur les villages plus bas dans la vallée. Par précaution, les autorités ont vidé un barrage artificiel en aval pour faire tampon au cas où.
Alors comment est-ce qu'on explique cette catastrophe, Jérémy ? C'est une conséquence du réchauffement climatique ?
Alors sans doute, mais on ne peut pas l'affirmer. La fonte du permafrost sur lequel reposait le glacier de Birch a sans doute aggravé la situation, mais il était connu pour être très fragile, avec des éboulements fréquents. C'est à cause d'une fissure à son sommet que décision a été prise d'évacuer le village quelques jours auparavant. Heureusement, puisque le bilan humain est pour le moment d'une seule personne disparue, un habitant de la vallée a priori, des chiens de secours ont été déployés pour tenter de le retrouver.
Merci pour ces précisions. Jérémy Lange en direct de Genève du côté de la météo hexagonale. La chaleur s'installe tranquillement cet après-midi sur l'ouest et sur le sud du pays sous un ciel dégagé à voilé sur la moitié est. 31 degrés attendus cet après-midi à Montpellier, 28 à Bordeaux, 24 à Paris et 22 à Strasbourg. Ça s'annonce encore plus ensoleillé et estival demain sur tout le pays. Ce journal a été réalisé par Yann Ozaman. Prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture à 18h avec Adrien Toffolet.